Il est midi. C'est l'heure de connecter votre cerveau à l'Hippocampe. Présenté par Fabien Olicard.
Bonjour à tous, je m'appelle Fabien Olicard, bienvenue sur l'Hippocampe, le podcast où votre cerveau trempe. On enregistre en temps normal, hein, du lundi au vendredi à midi sur Storm, où vous pouvez réagir dans le chat. D'ailleurs, bonjour aux premiers connectés, vous êtes déjà une dizaine, je crois, à être en ligne et ça augmente. Et on diffuse ensuite du lundi au samedi vers 13h sur toutes les plateformes de podcast, où je vous invite à vous abonner dès maintenant, comme ça vous ne ratez pas les prochains, et surtout à laisser votre plus belle note. C'est ce qui fait vivre ce podcast, ça et vos partages. Au sommaire aujourd'hui, il n'y aura pas de « les questions ne restent pas sans réponse » puisque le concept même du jour, le sujet du jour, c'est les dessous de l'industrie du spectacle vivant où je vous ai demandé de me laisser des questions sur les plateformes pour que je puisse y répondre aujourd'hui. Mais on terminera, comme d'habitude, par un « que dit le chat ?» et ce « que dit le chat ?» eh bien, me permet de regarder tous les messages que vous laissez actuellement et tout au long du podcast sur Storm pour que je puisse répondre aux dernières questions. Alors là, forcément, il y aura sûrement des doublons. Déjà, je vous dis comment j'ai sélectionné les questions d'aujourd'hui. J'ai référencé tout ce que vous aviez mis sur Storm, sur SoundCloud, etc. Et j'ai essayé de prendre les thématiques qui revenaient le plus en prenant des commentaires qui rassemblaient comme ça déjà ces thématiques. Je pense que je suis relativement clair. Donc, on va parler des dessous de l'industrie du spectacle vivant. C'est-à-dire, je n'ai pas forcément gardé les questions qui demandent si j'ai le trac sur scène ou pas. C'est plus sur le fonctionnement du spectacle, le fonctionnement d'un point de vue professionnel. C'est ça que je trouvais intéressant d'aborder parce que ben, je crois qu'on n'en parle quasiment jamais. Donc c'est parti, les dessous de l'industrie du spectacle vivant. Alors, j'ai Ferrast qui me dit « Quel est le processus pour mettre en avant un spectacle en partant du principe que personne te connaît ?» Et c'est vrai, ça c'est une première vraie question, comment on lance un spectacle d'un artiste qu'on ne connaît pas, qu'on soit soi-même cet artiste, que ce soit un spectacle qu'on produit, même une conférence d'ailleurs, hein, ça marche aussi, hein, ça reste à peu près la même mécanique. Bref, comment on met ça en place? Eh bien la première chose c'est de se dire, est-ce que le produit, on va parler d'un produit pour l'artiste, c'est la meilleure comparaison possible dans ce regard-là, est-ce que le produit est fin prêt à être présenté au public? Et là, on a deux directions possibles. Si la réponse est non, il va falloir organiser une acquisition d'expérience en le mettant dans des petites salles au départ, avec une petite communication pour prendre de l'expérience et pouvoir avoir la phase d'amélioration. Si le spectacle est prêt, alors ça va forcément passer par une stratégie de communication et un budget de communication. Donc ça peut être du très traditionnel, on prend une 4x3 dans le métro en faisant un crédit sur 20 ans parce que c'est hors de prix, ou on peut essayer de s'inspirer en fait de ce qui marche le mieux des autres milieux. C'est exactement ce que j'ai fait. Moi quand je passe dans un magasin Sephora, on me donne toujours un échantillon et si le truc me plaît, il y a de fortes chances que j'achète le produit. Donc comment on peut créer de l'échantillon pour le spectacle? L'artiste peut aller faire par exemple des plateaux, des scènes ouvertes, ce genre de choses. Il peut aussi inviter des petits blogs à venir voir le spectacle, donc il les invite gracieusement dans l'espoir d'avoir un article sur le blog en question. Et avec ces articles de blog, on peut après essayer de contacter des blogs un peu plus influents, un peu plus puissants. Puis si on a des articles dans ces blogs-là, contacter de la presse ou de la radio locale, et puis après avec ça, essayer de contacter du natio. En gros, il ne faut pas essayer d'aller trop vite dès le départ, il faut toujours tisser des premiers fondements, la première base qui est solide pour ne pas avoir un colosse au pied d'argile. Et puis surtout, ça permet de pouvoir corriger des choses si nécessaire au fur et à mesure de ça. Je pense que c'est relativement clair ça pour vous. On va passer à la question suivante. C'est une question de Sullivan qui a mis plusieurs questions d'ailleurs, qui dit « Selon ton expérience, de qui ou de quoi s'entourer quand on est un artiste intermittent qui débute ?» Et c'est vrai que quand un artiste qui débute est souvent de fait en autoproduction. Donc c'est une bonne question. De quoi s'entourer au départ? En fait, la question est pertinente dans le sens où beaucoup d'artistes au départ ne s'entourent pas parce qu'ils ne voient pas ce milieu-là comme une industrie justement. Avec le truc de nous, on n'est pas là pour faire du business, on est là pour faire de l'artistique. Et c'est dommage de vouloir étiqueter comme étant le mal absolu le fait d'avoir une entreprise et de voir ça comme une industrie. Parce que justement, si on veut rendre les choses solides dans le temps, il faut faire ça. Donc assez vite, ça vaut le coup de s'entourer de quelques personnes, je vais y répondre plus précisément évidemment, pour solidifier ça, ça veut dire faire des investissements, ça veut dire perdre de l'argent potentiellement. Il y a au moins deux postes qui sont très importants. Le premier, qui est le nerf de la guerre, c'est d'essayer d'avoir un booker, autrement appelé un diffuseur, autrement appelé un chargé de diffusion, c'est la personne qui va essayer de vendre le spectacle ou de le faire programmer ailleurs. Il y a plusieurs types de manières de vendre un spectacle, on en parlera sur une autre question. Cette personne-là, elle peut être soit rattachée à votre société, si vous avez déjà monté une société, donc directement vous l'employez, et donc là c'est quand même un investissement très lourd pour commencer, soit vous prenez quelqu'un qui est à son compte et qui vend ce qu'on appelle un catalogue. Donc c'est une espèce de symbiose commune, parce que le booker doit aimer le spectacle et aimer le défendre, et puis vous devez aimer ce booker-là et sa manière de travailler. Si la symbiose est établie, alors en général, ça fonctionne avec un pourcentage. Le booker prend directement un pourcentage sur les recettes de chacune des dates, qui va facturer directement au théâtre, par exemple, ou à votre production, si vous êtes en autoprod ou produit par quelqu'un, c'est pareil. Et ce pourcentage peut être assorti de ce qu'on appelle un minimum garanti pour lui, pour le booker. Admettons, il dit, moi je prends 10% des recettes avec un minimum garanti de 200 euros. Donc ça veut dire que si sur un spectacle vous avez 1500 euros de recettes, 10% ça fait que 150, donc vous lui devez 200 sans minimum garanti. Mais si vous faites 2500 euros de recettes, je parle des recettes, hein, pas des bénéfices, alors il aura 250 euros parce qu'on a passé son seuil de minimum garanti. Donc pour moi, voilà, un artiste qui débute doit trouver assez vite un booker. Ce booker, ça peut être aussi un pote, quelqu'un de la famille, n'importe qui a un peu la fibre commerciale et qui va apprendre les bases de ce métier, soit en s'auto-formant, soit en se formant auprès de quelqu'un qui sait déjà le faire. Ça marche très bien, il y a énormément d'exemples comme ça, de personnes très connues d'ailleurs, qui travaillent avec leur sœur, leur père ou leur pote depuis toujours, qui s'est improvisé chargé de diffusion au départ et puis qui l'est resté ensuite. Ça peut s'apprendre. Le deuxième personne qui sait bien de s'entourer, mais c'est quand même moins urgent, c'est une chargée, un chargé ou un directeur ou une directrice de production qui va être la personne qui va s'occuper un peu plus de l'administratif, qui va s'occuper de téléphoner à un théâtre que vous voulez louer par exemple, là c'est une autre mécanique, qui va mettre en place vos actions de communication, bref, qui va un peu chapeauter votre vision pour la rendre réelle, parce que évidemment vous ne pouvez pas tout faire quoi. Et vous entendez mon téléphone qui sonne d'ailleurs. Voilà à peu près les deux rôles au départ pour commencer. Cette personne-là, en général, on la prend en freelance au départ, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous avez en interne de la même manière. Toujours Sullivan qui dit « En ce qui concerne les tournées, quelle est la procédure pour organiser les dates de spectacle? L'artiste contacte-t-il les salles? Est-ce qu'il prend une location? Les managers de salles proposent l'artiste? Comment appliques-tu alors le tarif ?» Donc il y a beaucoup de questions en une et c'est assez intéressant, c'est assez passionnant. Je vais vous faire ça étape par étape. D'abord, il y a plusieurs manières, effectivement il y a trois manières de mettre un spectacle en place. La première manière, on va dire, la plus évidente, c'est l'autoproduction. Vous contactez une salle, vous louez cette salle-là et c'est vous, à votre charge et à vos risques financiers, qui organisez tout, la billetterie, le spectacle, payer les techniciens, faire la communication, la payer également, etc., etc. Bref, vous louez ça comme vous pourriez louer une salle des fêtes pour un mariage. C'est exactement pareil. La deuxième manière de faire, c'est ce qu'on appelle le contrat de cession. Là, c'est une salle de spectacle qui vous contacte pour acheter votre spectacle avec un prix fixe. Donc, la salle de telle pour vous programmer, évidemment, auprès de son grand public. Donc là, c'est ce qu'on appelle un contrat de cession. Donc là, vous n'avez pas de risque, puisque même si la salle est vide, entre guillemets, vous êtes payé de la même manière. Et puis, la troisième manière, qui est la manière la plus courante, c'est ce qu'on appelle le contrat de cession. C'est par exemple ce que j'avais et ce qu'on a dans la plupart des salles à Paris, hein, peut-être 99% des salles fonctionnent comme ça à Paris. En gros, vous contactez une salle, vous dites « voilà, j'aimerais bien jouer chez vous ». Il va falloir convaincre cette salle que le spectacle est bien, que c'est ok, que ça peut attirer du monde, que vous êtes sérieux, que vous êtes talentueux, etc. Une fois que la salle dit ok, vous n'avez pas les moyens de la louer, elle n'a pas forcément les moyens ou l'envie de vous acheter le spectacle, elle va proposer un contrat de co-réalisation où vous allez faire un partage des recettes. En gros, vous allez dire par exemple on fait 50-50 sur les recettes, moi ce que j'apporte c'est l'artistique et peut-être une partie de l'équipe, admettons, et puis la salle dit moi j'apporte ma salle et une partie de la communication. et on fait 50-50 pour les recettes à la fin, ou on fait 60-40, ou on fait 70-30, ça dépend aussi de plein d'autres critères. Tous les contrats sont possibles après à partir de cette base-là. Il existe une différence qui est aussi le minimum garanti qui peut s'appliquer à la salle ou à l'artiste ou à la production. On va dire à Paris, grosso modo, c'est toujours appliqué à la salle. La salle, elle va dire, on fait 50-50 avec un minimum garanti pour moi de 500€ par représentation. Donc vous allez jouer. Et si vous faites 600€ de recette, eh ben la salle prend 500€ et 100, il reste 100 pour vous. Si vous faites 1000€ de recette, il y a 500 chacun. Si vous faites 1200€ de recette, il y a 600€ chacun. Et c'est comme ça qu'on appelle ça aussi un peu de la location déguisée quand même, parce que quoi qu'il arrive, vous allez devoir de l'argent et il va falloir se projeter là-dedans. Mais c'est le fonctionnement des salles à Paris. C'est une histoire aussi d'offre et de demande, hein. Et puis en province, en dehors de Paris du moins, j'aime pas le mot province, en dehors de Paris, c'est plutôt le 50-50 sans minimum garanti qui fonctionne, et parfois avec un minimum garanti pour l'artiste, histoire qui couvre aussi ses frais de transport, de train, etc., d'hôtel et tout. Là, c'est la production ou l'artiste qui a un minimum garanti dans le partage des recettes. Le contrat de co-réalisation, il a ça d'intéressant que les deux sont censés s'impliquer pour la réussite de la représentation. C'est pas toujours le cas. Il y a des artistes qui mettent pas ce qu'il faut comme énergie, comme mobilisation, et parfois c'est les salles qui sont un peu décevantes et qui se disent bah, l'artiste va remplir. Donc tout existe dans ces moments-là. Donc les trois types de contrats, je vous le rappelle, c'est soit vous faites de la location pour produire, soit un contrat de cession où vous achetez le spectacle, soit une co-réalisation, et c'est un 50-50, assorti ou non, d'un minimum garanti. Donc, est-ce que l'artiste contacte les salles et prend une location? Ça y répond un petit peu. On va dire que c'est le booker, en général, chargé de production, et si on n'en a pas, évidemment, c'est l'artiste qui va proposer son spectacle aux différentes salles dans lesquelles il veut jouer. Et puis après, si il a envie de produire lui-même, moi c'est ce qui m'était arrivé, je voulais jouer à La Rochelle, qui est ma ville natale, j'ai cherché les salles et on a contacté avec mon équipe l'espace en camp, on a dealé le prix de la location et après on a tout mis en place. Comment appliquer alors le tarif? Alors le tarif, ça dépend de votre coût plateau. Le coût plateau, c'est la première chose à calculer, à savoir jouer une représentation, ça revient à combien? Combien ça va vous coûter entre les transports, les salaires, votre salaire aussi, hein, les taxes, c'est très important à prendre en compte, les différents frais, la TVA évidemment, les assurances, bref, tous les frais occasionnés, une partie de la communication évidemment, vont former ce qu'on appelle un coût plateau. Par exemple, jouer mon spectacle, ça coûte, je vais vous dire une bêtise, 1000€, admettons, pour faire un chiffre simple. Donc, Il est nécessaire, quand je veux faire une date, de gagner plus de 1000€ pour pas que ça me coûte d'argent. Et donc les recettes doivent dépasser le montant de 1000€. Et après, si vous faites 1200€ de recettes, ça veut dire que vous avez fait 200€ de bénéfices de production qui seront ensuite réinjectés dans le spectacle pour, par exemple, louer une salle ou pour améliorer le show, pour engager quelqu'un en plus, etc. Donc le tarif dépend de votre coût plateau directement. Il y a JP qui pose plein de questions en une. Je vais les faire une par une, je pense. Qui dit des salles comme l'Olympia ou le Zénith se réservent combien de temps à l'avance? Alors, pour combien de temps à l'avance? En général, une bonne année à l'avance. Moi, j'avais réservé l'Olympia en juin 2017 pour une production en septembre 2018. Le Zénith est réservé lui aussi depuis plus d'un an. Donc après, il faut se tenir sa langue parce qu'on a envie d'en parler, mais rien n'est prêt, donc on n'en parle pas encore. Mais en général, voilà, ces grosses salles-là, on y pense en termes de budget plus d'un an avant. Et si on veut la date qu'on veut, si on veut avoir la date qu'on aimerait vraiment avoir, il vaut mieux s'y prendre à voir un an et demi à l'avance. C'est quand même pas déconnant du tout, parce que bon, les samedis sont les plus prisés par exemple, et les samedis, il n'y en a que 52 dans l'année. Et les samedis de l'été ne fonctionnent pas comme les samedis de septembre à juin, et puis les samedis de décembre à Noël sont parfois zone morte suivant le type de spectacle. Donc tout ça, ça se réfléchit, et donc on va dire l'Olympia a peut-être les 45 samedis très intéressants ou intéressants. Bon, il y a plus de 45 spectacles qui ont envie de jouer à l'Olympia durant l'année. Donc plus on s'y prend tôt et mieux c'est, et puis après il faut aussi garder le temps d'organisation. Pourquoi sur Paris les spectacles de magie, de mentalisme ou de mentalisme durent ou ne dépassent pas 75 minutes? Alors ça, il y a une raison qui est très très simple. à Paris, il y a quand même la spécificité que les spectacles s'enchaînent énormément dans une même soirée. Un spectacle, par exemple, quand je joue au Point Virgule, il y avait les spectacles de 19h, de 20h15, de 21h30 et de 22h30. Donc 4 spectacles dans la même salle qui s'enchaînent, un petit peu comme à Avignon aussi, c'est le même cas. En dehors de Paris, c'est un peu différent. Dans la plupart des salles, il y a un seul spectacle par soir. Donc on fait la durée qu'on veut, en fait, suivant notre spectacle. À Paris, on est souvent obligé de raccourcir un petit peu dans ces salles-là, dans la plupart des salles, hein, on va dire, de 500, 600, 700 places, jusqu'aux petites salles de café-théâtre de 30 ou 50 places. Le Zénith ou l'Olympia, de toute manière, quoi qu'il arrive, ça se loue, ces grandes salles-là. Ils ne programment pas, ils n'achètent pas de spectacle. Donc, en louant, après, on fait bien la durée qu'on veut. Mais voilà pourquoi ça ne dure pas plus d'une heure, une heure et quart, parce qu'il y a souvent un autre spectacle qui pousse derrière. Autre question, toujours de Jean-Philippe. Quel est le process quand un artiste doit louer sa salle, quel est le process? Ok. Quel est le process? Eh bien, un peu ce qu'on a parlé tout à l'heure, mais avec à prendre en compte qu'il va falloir tout louer. C'est-à-dire que quand on loue un Olympia ou un Zénith, il n'y a pas une seule lumière dans la salle, il n'y a pas une seule enceinte. Tout doit être loué, donc il faut trouver un partenaire chez qui louer. Mais une fois qu'on a tout loué, bah, il va falloir le transporter à la salle. Donc il va falloir de la logistique pour ça. Et puis il va falloir monter et démonter le matériel. Donc on va engager ce qu'on appelle des rods. Et du coup, s'il y a 20 rods, moi c'était le cas pour mon Olympia, bah, va bien falloir les nourrir. Donc j'ai engagé une cuisinière pour le catering. Donc voilà, il y a toute une mécanique à mettre en place quand même. Et sa dernière question, comment répètes-tu le Zénith sans y avoir encore accès, lumière, mise en scène, effets spéciaux, loues-tu un garage, genre hangar pour prendre tes marques? Alors non, pas du tout, ça va se faire le jour même. Alors après aussi, parce que j'ai plus de 10 ans d'expérience sur scène, parce que je fais régulièrement des grandes salles, les lumières, on les travaille en 3D sur un logiciel spécial de rendu pour voir ce que ça va donner. C'est Diablo, mon technicien régisseur lumière qui a fait la créa, qui s'occupe de ça. La mise en scène, elle se réfléchit. Et puis dans les spectacles en tournée, je tente des trucs qui sont en fait aussi parfois des petites répétitions comme ça pour le Zénith. Question suivante, il y a Nathan qui dit « Comment on démarre dans ce domaine? On commence par où ?» Alors on va faire très simple, Nathan, si tu parles de l'artistique, on commence par avoir envie, tout simplement. On commence vraiment par avoir envie de le faire et on commence par les petites salles dans ce cas. Le mieux étant même de commencer par des plateaux. Les plateaux, ce sont des endroits où on vient jouer gratuitement, où le public ne paie pas ou paie une somme forfaitaire de l'ordre de 0 à 5 euros, on va dire. Et on vient faire un petit passage de 10 minutes et on apprend le métier tout simplement. Il y a Axio qui dit « Comment imagines-tu la mise en scène du spectacle? Comment crées-tu le spectacle ?» Alors ça, si vous voulez, ça fera l'objet d'un autre podcast. On va rester sur l'industrie, mais c'était juste pour vous rappeler que je n'ai pas pris les questions qui étaient plus de l'ordre artistique, puisqu'on était plus sur le côté industrie. Il y a Antoine qui pose une question hyper pertinente, qui dit « Comment s'imbrique le rôle de prod et celui d'artiste dans les choix à faire ?» Et ça a toujours été mon cas, être à la fois mon propre producteur et à la fois l'artiste qui monte sur scène. Donc c'est vrai, comment on organise ça dans ces cas-là? Il y a des arbitrages permanents entre le producteur qui veut essayer de limiter les risques et les pertes et entre l'artiste qui a des envies. Le mieux est toujours de s'entourer quand même et de décider de quelle casquette on a. Moi, les personnes avec qui j'ai pu travailler ou avec qui je travaille aujourd'hui, des fois, je me place en tant qu'artiste. Je me dis, tu ferais quoi si c'est toi qui produisais, tu vois? Et après, vous avez le final cut pour prendre la meilleure décision ou parfois aussi la moins mauvaise. Mais c'est vrai que c'est une dualité permanente. Et les joueurs de représentation, j'ai toujours fait en sorte d'avoir des personnes qui travaillent avec moi ou qui travaillent pour moi, qui ce jour-là représente la société pour que moi je reste vraiment, vraiment dans mon rôle d'artiste. Ça c'était pour toutes les questions que vous vous posiez du coup à propos de l'industrie du spectacle vivant et que vous avez pu me poser depuis hier. On va passer un petit peu à ce que vous avez dit aujourd'hui dans le chat, parce qu'il y a peut-être des questions redondantes, mais ça a peut-être amené d'autres questions, je vais regarder ça tout de suite.
Mais sinon, que dit le chat?
Le chat a été un peu bavard, effectivement. Il y en a qui disent que j'étais en retard. Pas du tout, j'étais pas du tout en retard aujourd'hui. Non, attendez, je vérifie, vous me faites peur, là. Ok, non, vous m'entendiez apparemment Tout va bien. J'ai très peur. Ah oui, non, il n'y a pas d'hippocampe, c'était pour les derniers jours. Oui, petite explication, retour sur les derniers jours. On a pas mal de grosses vidéos qui sont en train de se tourner. On a des repérages à faire, toujours pour la chaîne YouTube. Et en même temps, en parallèle, je ne suis pas encore censé l'annoncer, mais j'ai mon gala dans un gros festival très connu en Suisse, tous les ans, Festival d'humour. Et donc, on a eu les tournages des bandes annonces à faire. Bref, c'était une semaine vraiment très dense et j'ai une spécificité. C'est-à-dire, je suis capable de faire quelque chose de quotidien tous les jours, sans jamais une perte de volonté, sans me trouver d'excuses. Et le moment où, dans un débordement, c'est plus possible, j'ai aucun mal à revoir qu'est-ce qui est vraiment prioritaire, et je me suis dit ok, ils comprendront, et je vais redécaler ça lundi prochain pour une vraie reprise ce lundi aujourd'hui. Donc voilà, oui, c'est pour ça que ça a été décalé et que vous n'aviez pas été prévenu. Ok, oui, je pense qu'hier Fabien a dit à demain, maintenant le compte à rebours est particulier, effectivement. Oui, c'était par rapport à ça, d'accord. Alors, je prends les vraies questions. Quel est le meilleur moment pour lancer une tournée? Ben, c'est le moment où vous êtes prêt à la lancer. Je n'ai pas de meilleure réponse à ça. Comment organiser une première tournée? Eh bien, il va falloir... à l'étranger, d'accord, ok. À l'étranger, je n'ai pas eu le loisir de créer des tournées par moi-même. C'est-à-dire, j'ai toujours été contacté. Par exemple, là, c'est pas vraiment l'étranger parce que ça fait partie des territoires français, mais quand je joue en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, à la base, c'est quelqu'un de la Nouvelle-Calédonie qui m'avait contacté et qui s'est mis en bisbille avec quelqu'un en Polynésie en disant « Regarde, si on prend le spectacle en même temps et qu'on les enchaîne, ça leur réduit les coûts d'avion, donc ça nous réduit les coûts à nous, etc. » Donc, j'ai pas la réponse parce que je n'ai pas encore été habitué à faire ça. Je descends encore un petit peu dans vos questions. En tant qu'artiste, le choix de la première partie est-elle choisie par l'artiste principal, fortement recommandé par la production? Alors, ça dépend. D'une manière, l'artiste, au final, hein, il aura quand même le dernier mot sur scène. Il ne faut pas exagérer. S'il ne monte pas sur scène, il n'y a pas de spectacle. Mais la production peut recommander, aller jusqu'à presque imposer une première partie, ça c'est possible. Il y a après les autres problèmes aussi de parfois les salles qui ont des deals, et c'est dans le contrat, et c'est dealé en amont, c'est eux qui ont une première partie locale qui veulent absolument faire passer. Ou aussi, au contraire, il y a des endroits où on ne peut pas avoir de première partie parce qu'il faudrait réduire le spectacle. Ça m'est arrivé, ça, sur des salles en dehors de Paris, où le spectacle fait déjà 2 heures. Et en fait, par rapport au temps de travail des personnes qui travaillent dans la salle, il ne faut pas que le spectacle s'arrête après telle heure, admettons. Donc en fait, on ne peut pas prendre de première partie, sinon il faudrait que j'enlève 15 ou 20 minutes de mon spectacle. Et ça, ce n'est pas possible et ce ne serait pas très cool pour le public. Voilà un petit peu pour les premières parties. Est-ce qu'il y a une autre question? Comment est-ce qu'on recrute les rodistes qui montent et démontent le matériel? Oh ben alors ça, quand on est dans le milieu, c'est pas très compliqué. On trouve toujours du monde qui a besoin de travailler et qui sait faire. Mais sinon, avec les boîtes où vous louez le matériel, eux ont souvent énormément de contacts dans ce domaine-là. Et après, il y a des boîtes spécialisées qui fournissent aussi des équipes. À l'époque où j'étais dans un groupe, on était payé en consommation de boissons, me dit-on. Tes réponses permettent d'éclaircir le sujet. Oui, parce que être payé en consommation de boissons, c'est possible, mais bon, c'est pas très viable dans le temps. Et Anonymous qui dit « Ça serait cool de refaire des podcasts sur le spectacle ». Eh bien, avec grand plaisir. Anonymous, c'est toi qui boucles ce sujet, mais avec grand, grand plaisir. C'était donc la dernière question du chat.
Mais sinon, que dit le chat ?
On a bien fait le tour, je suis content, on pourra revenir sur des questions comme ça, dans des formats comme ça. J'aime bien aussi lancer un thème où vous me posez plein de questions en amont. Ça nous permet de creuser dans un sujet un petit peu comme ça en vrac. Je trouve pas ça inintéressant quand c'est des sujets qui sont peu abordés, tels que l'industrie du spectacle vivant. Merci beaucoup d'avoir écouté cet hippocampe. On se retrouve demain à midi pour l'enregistrement live ici sur Storm. Ce sera vraiment demain, il n'y a pas de souci. Soutenez l'hippocampe en vous abonnant au podcast, laissez votre plus belle notation. Partagez les podcasts qui vous intéressent quand j'en fais, parce que vous êtes les seuls ambassadeurs, ça soutient fort le podcast, ça le fait connaître, ça le référence, c'est grâce à vous. Moi, je vous dis rendez-vous demain à midi et sans faute, ciao.
L'hippocampe, faites tremper votre cerveau à midi, du lundi au samedi, en direct sur Storm et à 13h sur toutes les plateformes.